Bienvenue à Scale 16-17 avec Fulgence Plat au micro. Oui, ça va un peu mieux aujourd'hui avec le froid. Non, ce n'est pas aussi... C'est pas un froid de canard. Non, on peut supporter ça au moins. J'ai pas porté le gros manteau que j'avais hier. Quelque chose de plus léger, mais ça va quand même. Alors, Fulgence Plat au micro. Et puis, tout de suite, c'est après mon petit blablabla, c'est Myriam qui va nous parler des séries documentaires. Voilà. Ici et ailleurs, et pourquoi pas. Et puis ensuite... À 16h30, non, après Myriam, je vais parler un peu de la Coupe du Monde, parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas, sincèrement. Tu t'es dit, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Allez-y comprendre quelque chose. L'Arabie Saoudite bat l'Argentine 2-1. L'Argentine de Lionel Messi. Ah ouais, c'est ça.
C'est le sport.
Ah oui, c'est le sport. Et puis, en deuxième partie d'émission, à 16h30, je vais recevoir Monique Gagnon-Tremblay, une ancienne politicienne. Qui est auteur, elle a écrit un livre, Une force tranquille, mémoire politique, préfacé par Jean Charest. Ouais, c'est un très beau livre, très belle couverture, très belle photo en train de faire des dédicaces. Restez à l'écoute, tu voulais en savoir plus de cette grande dame québécoise qui vient de, avec sa plume, de caresser les feuilles d'un papier pour les mettre sur, comment dirais-je, dans un livre, grâce à la collaboration de la maison d'édition Septentrion, Monique Gagnon. Trembler, une force tranquille, mémoire politique. Bonjour Myriam.
Bon après-midi à tous nos auditeurs.
Oui, l'Arabie Saoudite qui fait trembler la terre, le monde entier.
Ça fait la une du monde entier aujourd'hui, je pense.
Oh oui.
C'est... Et les Australiens ont failli nous faire vivre la même chose au début, les quelques premières minutes avec la France.
Tu sais quoi ? Je me suis dit, les coups bas sont pas finis là-bas.
Ouais, mais c'est... la France s'en sort bien. La France s'en sort même très bien.
Oui, demain, la journée est fériée là-bas en Arabie Saoudite.
Je ne sais pas si ça va être férié pour le Canada car il rentre en scène demain. Hein.
Ah ouais, ouais.
Attention.
C'est férié. Donc je vais en parler après ton passage. Quoi.
Ben oui, j'en suis sûr.
Allez, on t'écoute avec les séries documentaires.
Oui. Oui. On plonge dans nos séries documentaires qui, d'ailleurs, qui sont présentes chez nous au Québec. On va en parler sur nos télévisions. Donc on va commencer avec Laissez-nous raconter. Alors la série Laissez-nous raconter de la réalisatrice Abenakiz. Kim Obomsawi tend la main en invitant les téléspectateurs à tendre l'oreille à ce que les 11 peuples autochtones du Québec ont à dire d'eux-mêmes et de notre histoire commune.
Oui.
C'est très intéressant.
Oui.
Alors sa série propose un portrait à la fois vaste et intime des premiers peuples qui, pour une rare fois, selon leur point de vue, à eux cette fois-ci, ont l'occasion de raconter l'histoire et leurs histoires. C'est ça qui est bien. Alors en entrevue, la réalisatrice nous a expliqué que c'est une série de cœur où il n'y a pas d'experts, les experts, ce sont les gens que l'on est en train de montrer, à qui on donne la voix. Alors elle nous indique aussi que dans son documentaire, on ne se met pas des lunettes roses, on va à des endroits qui ont fait très mal à nos peuples, mais on s'attarde davantage à ce qu'on est en train de se réapproprier et le devenir, c'est ça qui est bien.
Elle doit découvrir des choses avec sa caméra.
Voilà, puis c'est très positif. C'est ça. Alors au fait, c'est une série qui célèbre les cultures, mais aussi la résistance, et qui démontre que les voix des peuples autochtones méritent d'être entendues, qu'ils ont beaucoup apporté à la société, ça bien sûr.
La résistance monde... et la résilience.
La résilience, et j'espère que tout le monde le sait, qu'ils ont beaucoup apporté à la société. Alors à travers ces 4 épisodes, il y en a 4, Kim Obomsawi souhaite faire contrepoids au discours médiatique répétitif qui met en général l'accent sur les problèmes des premiers peuples avec l'alcoolisme, l'itinérance, etc. Alors elle précise, ce sont des gens accueillants qui nous invitent à manger, à partager, à raconter. Dans le premier épisode de samedi soir qui vient juste passer, parce que ça a commencé samedi, n'est-ce pas ?
Oui.
On s'attarde sur le territoire et on souligne l'importance qu'il y a sur le plan politique, mais aussi son empreinte pour les premiers peuples. Bien sûr, ils sont très en symbiose avec la nature autour, hein, tant la nature fait partie de leur identité. Alors, Kim Obomsawi croit d'ailleurs que c'est en rectifiant l'histoire que le racisme et les préjugés envers les premiers peuples finiront par cesser et disparaître. Je l'espère, et c'est vrai que c'est comme ça que ça peut changer les idées. Alors, la docu-série « Laissez-nous raconter » et diffusé les samedis à 21h sur ICI, Télé à Radio-Canada, depuis le 19 novembre. Alors ne ratez pas ça, c'est vraiment intéressant.
Oui, tu sais Myriam, quand je rencontre des gens qui sont de la communauté autochtone et puis parlent des liens avec la nature, je ne suis pas trop dépaysé parce qu'avec l'Afrique subsaharienne en général, c'est les liens avec la nature, c'est pareil.
Oui, hein. Oui, oui, oui. Oui, d'ailleurs, donc dans plusieurs pays, même en Amérique latine, hein,
oui.
Les tribus, les choses
ça.
Comme ça en Amazonie sont en symbiose avec la nature. Hein.
C'est ça,
d'ailleurs,
c'est
à ces gens-là, c'est drôle, je ramène un point qui ouvre un petit peu plus loin, mais en Amazonie, quand on crie, tu sais, les Occidentaux crient aux Amazoniens, les tribus qui vivent dans la forêt, arrêtez de couper des arbres. Mais c'est pas eux qui dérangent de couper leurs arbres parce qu'ils ont besoin d'une certaine survie dans la nature. Et on leur pointe des doigts à ces gens-là qui vivent dans la nature d'arrêter de couper des arbres pour l'environnement. Mais c'est vous qui détruisez de l'autre bord l'environnement, c'est pas eux. Alors c'est surprenant hein, ce lien.
Et celui qui n'a pas été, celui
les autochtones, oui.
Oui, celui qui n'a pas été réélu, à comment ça s'appelle, Bolsonaro, voilà, qui avait donné le feu vert de détruire l'Amazonie complètement.
Ouais. Exact.
Voilà.
Alors, c'est spécial, c'est vrai, les autochtones réels, donc qui sont là avec la, ils ont souvent cette symbiose avec la nature, effectivement. Alors, on passe maintenant à tout un ordre d'idées. Un autre ordre d'idées, c'est les cœurs migratoires.
Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore avec le.
Alors, cette série documentaire Cœurs migratoires,
oui.
Selon la présentation donc des réalisateurs et des producteurs, est une observation qui plonge le téléspectateur dans le quotidien de couples binationaux dont l'un des conjoints vient soit tout juste d'arriver au Canada ou est toujours à l'étranger à l'attente d'un visa.
Ah,
alors, c'est intéressant, en les accompagnant dans leur parcours d'intégration à leur nouvelle vie, la docu-série dresse au fait un portrait des embûches rencontrées par ces cinq couples et de l'intensité qui découle d'une relation amoureuse multiculturelle avec beaucoup d'attentes de leur part. Hein. Et c'est très émouvant, hein. C'est une série qui a beaucoup de succès, apparemment parce que les spectateurs ont déjà demandé une deuxième saison, imagine.
C'est la première saison.
Oh, d'accord. Alors elle nous montre bien sûr l'aspect compliqué de la bureaucratie, tu sais, de faire des visas, des papiers, parce qu'on est marié, on s'en vient au Canada, alors de ces amours donc internationaux, mais qui creusent aussi les défis d'intégration, parce qu'il y en a quand une fois qu'ils arrivent, hein, c'est bien beau là, déjà de passer toutes ces embûches, une fois qu'ils arrivent ici, ce n'est pas évident avec le choc des cultures d'abord,
ouais, c'est vrai.
La réticence des familles.
Et puis surtout ceux qui ne sont pas passés par l'Europe avant d'arriver. Hein.
Exact.
Oh, parce que là, au moins, il y a complètement un dépaysement total, quoi.
Total, total.
Même si on vient de l'Europe, on est dépaysé, à plus forte raison quand on vient de l'autre côté du monde.
Exact. Dès que tu arrives, en fait, dans un pays qui n'est pas le tien, qui n'a pas la même culture,
oui.
Il y a déjà un dépaysement absolu dans tout, à tous les niveaux.
Oui.
Et surtout, il y a aussi cette réticence des proches. Et pas seulement, par exemple, quand je dis ça, pas seulement, par exemple, des Québécois. Un Québécois qui, par exemple, reçoit donc sa jeune épouse d'une autre culture qui vient d'Amérique latine. D'ailleurs, on a cinq couples, soit d'Amérique latine, d'Afrique, du Sri Lanka. L'autre, je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais il faudra vérifier. Ils sont vraiment cinq couples assez charmants auxquels on s'attache pour les suivre. Donc, et c'est la réticence des familles de l'autre côté aussi, de ceux qui migrent, tu comprends? Les familles, par exemple le Sri Lankais, on voit que leurs familles sont réticents.
Et ah non, ça vient pas d'un seul côté, ça vient des deux côtés.
Exact,
hein.
Les gens, deux côtés.
Les gens, ils veulent que les enfants, les garçons et les filles de leur famille se marient aux gens de leur culture.
Exact.
C'est partout pareil.
Partout pareil, donc il y a cette méfiance, c'est difficulté aussi une fois arrivé à trouver du travail. Dépendance financière, c'est surtout quand c'est le côté masculin. Il arrive ici, puis il est avec une Québécoise, et c'est des couples qui sont vraiment amoureux. Hein.
Ouais,
qui sont vraiment des vrais couples.
Pour compléter ce que tu dis, j'ai connu un Sénégalais en Allemagne qui est allé au Sénégal avec sa copine allemande. Sa maman n'était pas du tout contente. Hein.
Bien sûr.
Oui, non, il a une très belle, très mauvaise réception, tout ça. Il a été obligé. Il dit, maman, je suis désolé, mais je ne reviens plus au Sénégal. Il a coupé les ponts avec sa famille.
Parce que sa mère,
pour lui, devait se marier à une Sénégalaise. Et pourquoi il vient avec une Allemande, tout ça. Il dit, mais maman, c'est pas, je suis pas de ta génération. Où les parents cherchaient les maris, les épouses pour les enfants. Non, c'est fini, ça. Moi, je vis en Allemagne. Voilà, tu vas pas me dire tu vas m'envoyer, je vais me garder une femme au Sénégal. Je la connais même pas.
Exact.
Voilà.
Exact,
ouais. Non, ça a été dur pour lui, hein, de vraiment d'avoir été reçu comme ça de cette manière par sa propre maman parce qu'il est venu avec une Allemande.
Oui,
c'était pour compléter ce que tu viens de dire là.
Exact, tout à fait. C'est ce qui est réel en plus. Et il faut souligner aussi que, comme je disais, une fois que par exemple, surtout chez l'homme, on le voit, quand il arrive ici avec une femme québécoise, qui donc elle est installée dans sa culture, elle est là, elle a son travail, elle a tout.
Oui.
Mais lui, il arrive, il ne trouve pas de travail parce que soit il est en attente de papier, ce n'est pas évident de tout de suite faire ses équivalences, de trouver un emploi. et il a la dépendance financière.
Oui, oui, mais il n'a pas d'expérience québécoise parce qu'il faut commencer par le bas, prendre les petits boulots, même si tu es qualifié, super qualifié.
Voilà.
Je connais des médecins qui sont devenus chauffeurs de taxi ici. Bon, on voit ça, il y en a plein.
Exact. Alors, il y a des grandes émotions face à l'attente du conjoint ou de la conjointe. C'est très intéressant, ça nous plonge vraiment dans ça. On s'attache, je t'ai dit, à ces couples-là. Alors, on sort avec cette série-là documentaire.
Ça passe sur quelle chaîne, Myriam?
Alors, je vais le dire. Attends, donne-moi 2 secondes.
Voilà, d'accord.
Je conclure sur ça. On sort du préjugé du mariage arnaque. C'est ce fameux mariage qu'on a tendance à entendre beaucoup au Québec ici. C'est la fille, elle s'en va au sud, en Amérique de Latine, faire ses vacances une semaine à Cuba, une semaine au Venezuela. Elle tombe amoureuse au bout d'une semaine, puis elle revient avec un arnaqueur, entre guillemets. Parce que c'est ça, hein, les mariages d'arnaque, à peu près. Ou alors celle qui envoie de l'argent en Afrique à un Africain pendant un mois, elle pense que ça y est, c'est l'amour fou, puis il n'arrive jamais. Hein. On a entendu ces horreurs.
Mais en 2022, pourquoi est-ce que les gens tombent encore dans ces pièges-là?
Mais c'est très subjectif, c'est très personnel. La femme, elle cherche de l'amour, elle pense le trouver, elle a 40 ans, elle veut.
Les hommes aussi, hein. Oui.
Les hommes aussi. Mmh. Alors, il arrive donc, ces histoires qu'on a entendues, ce documentaire sort de ce cadre-là, justement. Il nous montre que c'est vraiment des vraies relations.
Ah, moi, d'accord.
Des vrais mariages, il peut défaire ses préjugés sur les mariages arnaques avec les étrangers. Alors, présenté sur Canal Vie les mercredis à 20h, il est en rattrapage. Vous pouvez y aller sur nouveau.ca. Vous pouvez voir les épisodes au fur et à mesure par semaine. Ils sont débloqués gratuitement sur nouveau.ca. Voilà.
Ok. Merci Myriam.
Ça va t'intéresser.
Oui. Je vais aller voir ça. Oui.
Le troisième documentaire avant le dernier, il parle celui-là de réinsertion. Un autre ordre d'idée encore. Alors cette fois on va dans le milieu carcéral.
Oui.
Réinsertion, 100 jours pour un nouveau départ. Alors la semaine dernière, Télé-Québec a diffusé la série donc Réinsertion, 100 jours pour un nouveau départ. C'est un documentaire qui suit des prisonniers australiens accueillis dans des familles les 100 premiers jours après leur libération. Alors avec plus de
accueillis dans des familles étrangères, pas leur propre famille, hein.
Non, des familles étrangères qui acceptent de dire très bien, on veut l'accueillir chez nous pendant 100 jours. Alors avec un objectif, oui, c'est incroyable, avec un objectif précis. Alors il faut savoir d'abord qu'en Australie, 40 000 personnes actuellement incarcérées en Australie, et la moitié apparemment d'entre eux retournent en prison après 2 ans. Alors cette série révolutionnaire vraiment, examine si cette statistique peut être améliorée. Comment ? Eh bien, le but de cette expérience est de montrer qu'un foyer stable va permettre d'éviter une récidive et un retour en prison à ces personnes qui sont souvent en passage, il faut le savoir aussi. Ça, encore une fois, c'est pertinent de voir ce reportage parce que ça nous éclaire un peu sur ces gens qui sortent de prison, Fulgence, après 10 ans. Qu'est-ce que tu penses quand il arrive dans la société ? Ben, il est décalé.
Il est complètement dépaysé.
D'abord,
il connaît plus
par la technologie d'aujourd'hui.
Il est complètement intelligent.
Il voit de la technologie. Il faut présenter son CV de telle et telle manière.
Et puis non seulement ça, les anciens amis se sont déjà éloignés, ça c'est clair.
Exact, mais même sa société autour de lui est comme dépassée de plusieurs années. Tu sais, imagine, tu sors 10 ans plus tard, tu te dis qu'est-ce qui se passe autour de moi ? J'ai pas laissé la société comme ça en rentrant en prison. Alors, donc l'avancée technologique, les nouvelles méthodes pour trouver un travail, le monde, ils trouvent qu'il y a beaucoup trop de monde autour d'eux, ils étouffent des fois de voir ce monde qui bourdonne dans les rues. Alors, ça nous permet donc de réfléchir sur nos idées préconçues, parce qu'on en a tous, hein, des idées préconçues sur les prisonniers.
Moi, j'ai dit bravo à ces familles qui les reçoivent chez elles.
C'est incroyable.
Et pour leur permettre 100 jours, c'est beaucoup quand même. Hein.
C'est énorme.
Un inconnu qui sort de prison chez toi.
C'est des femmes avec leur mari, leurs enfants, qui acceptent ça. Et de recevoir donc un nouvel éclairage sur ce vécu pas si facile de ces ex-prisonniers.
Oui.
Alors, cette docu-série se présente en 3 épisodes. Elle est menée par Daniel Cormack, qui filme donc le quotidien de ces 5 familles australiennes. On notera au long de ces épisodes que certains, un ou deux, vous allez voir l'épisode 2 ou 3 si vous avez l'occasion, qui rapidement retrouvent leur travers. Hein,
et puis qui nous donne le droit même de juger ces anciens bagnards ? Qui nous donne le droit de le faire ?
Alors, c'est très intéressant aussi. Alors, vous pouvez revoir cette série, parce que ça y est, c'était la semaine dernière sur Télé-Québec, à la télévision directement, mais sur leur site, ils le permettent gratuitement jusqu'en 2023 pour aller voir les épisodes.
Jusqu'en 2023, gratuitement.
Jusqu'en janvier.
Jusqu'en janvier, mais c'est quand même, c'est du bonbon, ça.
c'est du bonbon.
Un beau cadeau.
C'est des reportages vraiment que je trouve documentaires qui sont très intéressants. Alors, s'ouvrir un peu les idées. Hein.
C'est bien de mettre ça dans, comment dirais-je, d'informer nos auditeurs qui ne sont pas branchés aussi sur ces trucs-là, qui peuvent aller retrouver, voilà, aller voir ça et passer du temps. Les temps de solitude aussi, de fin d'année avec ça, pourquoi pas.
Exact. On se cocooning à la maison, puis
c'est une période très dure pour beaucoup de personnes. La fin d'année,
vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Allez, on termine avec Alpha 02.
Alpha 02.
Le mystère Alexandre Cassès. Ouais, ouais.
Alors, le mystère d'Alexandre Cassès. Écoute, ça c'est digne d'un film. Hein.
C'est digne d'un film d'Hollywood.
Exact. Alors, on va se remettre en contexte. En juillet 2017, tous les médias de la planète annoncent le décès d'un certain Alexandre Cassès, 25 ans, Québécois de Trois-Rivières, en Thaïlande. Alors, il est retrouvé mort dans sa cellule à Bangkok, détenu sur l'ordre du FBI, imagine bien, en attente de son extradition aux États-Unis. Ils le veulent, ils veulent qu'il retourne aux États-Unis, là. Alors que c'est un Québécois. Alors, Alexandre Cassès avait été identifié par le FBI comme étant le principal architecte et opérateur de Alphabet, décrit comme un grand commerçant du dark web qui servait à vendre de la drogue, des identités volées, des armes.
Tu sais ce qui me fascine dans cette histoire ? Quand j'ai écouté ça un moment ce dimanche soir, tout le monde en parle. Elle savait même pas ce que son fils faisait.
Elle savait pas. Alors, il a vécu un train de vie princier hein, qui provenait de son cybermarché criminel où il exploitait anonymement du monde sous le pseudonyme de Alpha 02.
Mais quand sa maman allait lui rendre visite là-bas, il l'a reçu dans un appartement dont il payait $400, tu vois. Et il l'a pas envoyé dans son vrai milieu de vie de princier, là.
Exact. C'est très intéressant. D'ailleurs, elle participe, je vais le dire plus tard. Alors, qu'elle participe à ce documentaire. Alors, ainsi, la série documentaire Alpha 02, Le mystère d'Alexandre Cassès, est en 4 épisodes réalisée par Frédéric Nassif. Elle nous présente cette enquête, donc, menée par les journalistes Monique Néron et Simon Coutu, tente de faire de la lumière sur le parcours et la personnalité de ce jeune exilé en Thaïlande. On remonte jusqu'à son enfance dans une famille brisée, de sa passion pour les ordinateurs, car il était fort en informatique, hein, de son caractère secret et de l'incrédulité, comme tu le dis, de ses proches et de leurs doutes quant à la cause réelle de sa mort en prison. Parce qu'ils disent qu'il s'est suicidé, mais ils pensent que vraiment c'était déguisé en assassinat.
Sa mère n'y croit pas.
Alors j'y arrive. La mère de Cassès, donc Danielle Héroux, toujours tristement choquée, a accepté de participer au documentaire et d'apporter le plus d'informations pour elle-même essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec son fils. Alors à propos de cela, la journaliste Monique Néron a commenté, c'est intéressant, elle dit le portrait final qu'on a découvert, car ils ont fait une profonde enquête, est très sombre. Ça a été difficile de revenir vers la mère de cet homme-là. À la fin du projet, avec les informations que nous avions, ce n'était pas toujours rose, très confrontant pour une mère et une femme de les lui apprendre. Alors c'est très intéressant à suivre aussi.
Tu sais, Myriam.
Oui.
Tu sais, c'est pas facile d'être parent. Hein. C'est.
Oh non.
Tu as beau donner la meilleure, la plus belle des éducations aux enfants, mais tu n'es pas avec eux 24 heures sur 24, 16 jours sur 7.
On arrive à être en contrôle jusqu'à leur maturité, puis that's it.
Oh oui, même là encore, voilà, c'est ça. Même là encore,
Même là, quand on arrive à l'adolescence, hein.
Tout le temps, tu traînes pas dehors avec lui, il traîne avec ses amis, avec ses potes, avec ses amis. C'est ça, être parent de nos jours, mais ça a toujours été comme ça, mais de nos jours, c'est encore plus difficile.
C'est vrai.
Voilà.
Surtout avec tout ce qui les entoure et tout ce qui les. Il y a des embûches, il y a des gens qui les leurrent, c'est incroyable.
Quand je vois des jeunes filles dans la rue qui sont enceintes, le ventre bien ballonné, ou bien des jeunes familles, je dis bravo, courage, hein, parce que avec ce monde, moi j'appelle ce monde de fou, de je ne sais quoi, tout le monde. Allez, je te laisse continuer, s'il te plaît.
J'avais fini, Fulgence, parfait, c'est intéressant. Ça enclenche un débat, c'est ça qu'il faut. Alors, Alpha 02 sera déposé, ça n'a pas encore commencé.
Oui.
Ça sera déposé dès mardi prochain sur tout.tv.
Sur tout.tv, c'est pas sur Nouveau cette fois-ci.
Non, c'est Radio-Canada.
Voilà. Merci beaucoup, Myriam.
Je vous dis à jeudi, alors.
À jeudi, là, c'est le mondial. Avec les surprises. Attends, est-ce que le match de la France est terminé?
Le match de la France est terminé, puis ils ont fini haut en couleur.
À combien?
Je pense que c'est 4-1.
Oh. Oh, merde.
Ah non, ils ont bien joué, ils nous ont fait une petite frayeur les 5 premières minutes.
Ah oui. Ils ont encaissé le but et après ils se sont remontés les manches. Hein.
Exact.
Merci.
Paraît, au Maroc, les lycées, les jeunes lycées manifestent pour voir les matchs et arrêter les cours.
Ah voilà. Mais c'est le sport le plus populaire au monde, le foot.
Monde.
Oui,
alors,
merci beaucoup à toi.
Ça,
et puis on se retrouve le jeudi, Myriam.
Parfait, allez, bonne soirée.
Merci à toi aussi. Bye bye.
A sound. I heard my heart hit the ground. You're not my type, but you're the one. Hey, not my type, but you're the one. One night with you, one night with you, and it's done. Hey, what you've been through and what I've been through, now it's done. As a sound, I heard your heart hit the ground. You're not my type, but you're the one. One plus two plus three, leaving it up. Talk to me, talk to me.
Oui, ça c'est la voix de Shy Frank. Not my type, Shy Frank. Ouais. Not my type, bon, pas mon genre. Voilà, restez à l'écoute. Je vais parler un peu de foot au Qatar. Voilà, tout de suite, je commence. Bon, la France vient de finir son match face à l'Australie 4-1. Un but de Rabiot, un but de Giroud, deux buts de Giroud et un but de Mbappé. Il y a une frayeur, comme l'a dit Myriam d'ailleurs. Et c'est l'Australie qui a ouvert le score. Là, il ne faut pas se dire que les gens ont tremblé. Non. L'Australie qui mène face à la France, alors là, c'est pas donné. Alors, là, tout de suite, on dit bravo aux Bleus, ils vont de l'avant. Mais il y a une histoire. Bon, il y a la Pologne-Mexique, c'est combien ? 0-0. Voilà, il n'y a pas de compte à rendre. Ils vont de l'avant, ils n'ont pas perdu de points, ils ont gagné chacun un point, ils vont aller de l'avant. Il y a le Sénégal qui a très bien joué face au Pays-Bas hier, et c'est dans les prolongations, ouais, disons, ça dit que les 90 minutes étaient déjà passées, et les Australiens ont marqué deux buts dans les prolongations, pas les prolongations, les arrêts de jeu, voilà. Les prolongations, c'est autre chose. quand c'est en finale et puis oh, mais on doit avoir forcément un vainqueur et qu'on donne des prolongations, ou bien ça, la prolongation bien sûr, c'est-à-dire les arrêts de jeu qu'on ajoute là-dessus, prolongation, on peut l'appeler aussi comme ça. Voilà, c'est dans cette partie de jeu, après les 90 minutes, que les Néerlandais, les Hollandais, on peut les appeler comme on veut, ils ont mis les deux buts. Ouais, mais il faut le dire aussi que la vedette de l'équipe sénégalaise, Sadio Mané, est blessé. Il ne peut pas participer à cette Coupe du Monde. Et puis, il y a l'un des grands joueurs sénégalais aussi qui a été blessé en plein match. Donc, ça a cassé complètement le rythme du jeu. Ils n'ont pas pu rattraper. C'était un peu... Voilà, mais ça aurait dû se terminer 0-0. Mais malheureusement, voilà, c'est le sport. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis quoi encore, il y a les États-Unis et les Pays de Galles qui ont aussi fait match nul 1-1 hier. Mais non, la grande surprise, moi j'appelle ça le coup de massue. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hein. On se dit, mais est-ce que l'équipe d'Argentine a rêvé? Ils ont dit qu'ils vont cartonner l'Arabie Saoudite avec 10-0. Une équipe qui est qualifiée pour les phases finales de la Coupe du Monde, il ne faut jamais la sous-estimer. C'est ce que beaucoup de vedettes font beaucoup d'erreurs comme ça. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine 2-1, l'équipe de Lionel Messi. Ah oui, Mathieu.
J'écoute.
Ah oui.
Je connais autant le football, le soccer que le hockey.
Ah oui.
C'est donc dire que je connais Messi, j'ai déjà entendu le nom.
Oui, et l'équipe nationale d'Argentine, c'est l'une des meilleures au monde. Qui perd face à l'Arabie Saoudite.
À te voir perdre ta tuque, je comprends que c'est une des meilleures équipes et qu'elle n'aurait pas dû perdre.
Défaite historique, tempête dans le sable. Voilà, titre de certains journaux déjà. Alors là, vraiment. Donc demain, la première réaction de Lionel Messi dit, c'est un coup très dur. C'est un coup très dur. C'est la dernière Coupe du Monde de la Pulga qui débute et de la plus mauvaise des manières malgré son but. Il a marqué le premier but penalty, puis il y a eu l'égalisation, et puis les Saoudiens ont mis le deuxième but. Et pour ça, le roi d'Arabie Saoudite décrète un jour férié pour célébrer l'exploit face à l'Argentine. Demain, mercredi, c'est férié sur toute l'étendue du territoire en Arabie Saoudite. Pas ici. Mathieu me demande si c'est ici. Non, en Arabie Saoudite. Alors, restez à l'écoute. Je vais revenir sur ça après mon invité, qui sera avec moi pour parler. Monique Gagnon-Tremblay, auteure, ancienne politicienne, qui va parler de son livre « Une force tranquille, mémoire politique », préfacé par Jean Charest. Allez, à tout de suite, restez à l'écoute.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission avec mon invité Monique Gagnon-Tremblay son livre est en librairie depuis le 7 septembre. Pour ceux qui ne l'ont pas, allez-y en librairie, cherchez votre copie. C'est dense. Je lui dis merci d'abord avant de lui dire bonjour. Notaire de profession, Monique Gagnon-Tremblay a été élue en 1985 dans le comité de Saint-François. Loin de se douter de son mandat à l'Assemblée nationale du Québec qui s'étendrait sur 27 ans de carrière politique. Son audace, elle va nous le dire, qu'est-ce qui l'a poussé en politique. Donc, elle révèle le parcours original d'une femme de tête qui, grâce à un travail acharné, se fait élire à l'Assemblée nationale du Québec où elle a passé ses 27 ans, notaire de profession. Elle aura une vie politique bien remplie à la direction de plusieurs ministères et dans un univers à forte prédominance masculine. Et puis à l'époque, déjà, enraciné dans son milieu, l'auteur témoigne également du rôle fondamental d'élu auprès de son électorat, apportant ainsi un éclairage unique sur l'histoire de la région de Sherbrooke. Ouais. À une époque où la démocratie doit répondre à des défis préoccupants, Monique Gagnon-Tremblay offre le récit de son engagement au service du Québec afin de mesurer le chemin parcouru et particulièrement de guider les Québécois vers de nouveaux possibles. Wow. Bonjour Monique Gagnon-Tremblay.
Oui, Bonjour, Monsieur Blas.
Oui, appelez-moi simplement Fulgence. Comment allez-vous?
Moi, je vais très, très, très bien.
Oui, quand est-ce maintenant, que... Quand oui, allez-y, allez-y.
Maintenant, la retraite, bon, j'ai après avoir écrit mon autobiographie, la retraite, elle est la bienvenue.
Oui.
Alors, j'ai une très belle vie.
Bravo, bravo. Ouais, félicitations. Profitez-en de cette retraite. Oui. Et puis, quand est-ce que l'idée vous est venue de prendre une plume et prendre des feuilles, des cahiers ou bien votre ordinateur pour mettre tout ce que vous avez vécu durant ces 27 ans?
Mais je dois dire qu'au départ, c'est le récit de toute une vie, une enfance très heureuse, l'adolescence, les études, retour aux études et cette carrière politique. Donc, à ma retraite, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai écrit 350 pages de texte que j'ai fait lire à mes sœurs, lesquelles m'ont fortement conseillé de les publier. Oui. En premier lieu, c'était vraiment pour moi. Je me disais toujours, bon, bien, lorsque j'aurai 100 ans, je pourrai me relire. Alors, donc, pour moi, c'était important.
Je vous le souhaite.
Oui. Oui. D'autant plus que j'avais conservé tous mes agendas papier. Vous savez, durant 27 ans de vie politique, ça fait plusieurs agendas. J'avais conservé mes agendas papier, j'avais conservé les coupures de presse, les politiques des différents ministères que j'ai occupés, les ententes historiques et bien sûr toutes mes notes personnelles que j'avais accumulées.
Oui.
Alors, vous imaginez que 27 ans de vie politique, dont 18 ans comme député ministre, on accumule beaucoup de documents et de souvenirs.
Pas les moindres.
Oui, c'est ça. Mmh. Alors, ça m'a permis d'écrire, et en premier lieu, comme je le mentionnais, ce n'était pas pour publication, pour édition, mais c'était vraiment pour moi et pour ma famille, mes amis. Et par la suite, par contre, on m'a conseillé justement de les publier et je trouvais que mon parcours singulier pouvait servir aussi d'inspiration aux femmes et aux hommes qui vont constater qu'avec beaucoup de détermination et de travail, on peut réaliser ses ambitions et ses rêves en politique et bien sûr en dehors de la politique.
Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en politique là, à cette époque déjà? Ce milieu masculinisé, masculin là?
Je vous avoue qu'en 1900, je m'étais présentée en 1981, mais sans succès, sans trop savoir finalement ce que je faisais. Alors donc, par la suite, M. Bourassa m'avait demandé de m'occuper de la politique de la condition féminine et j'ai aussi aidé à structurer le Parti libéral dans le comté. Mais j'aimais beaucoup ma profession. J'étais notaire à l'époque. D'ailleurs, j'étais retournée aux études à l'âge de 29 ans pour suivre mon cours de droit.
Oui.
Alors, j'aimais beaucoup mon travail. Mais en même temps, bon, avec la pression des gens et à bien y penser, je me suis dit, bon, bien, pourquoi pas? Alors, c'était quand même un âge respectable de 45 ans. J'avais quand même une certaine expérience parce qu'il faut aussi avoir une expérience. Mais surtout, j'avais eu le conseil de M. Ryan qui m'avait dit, écoutez, la politique, c'est de courte durée. Alors, donc, assurez votre situation financière au cas, parce que la population peut vous rejeter d'une année à l'autre.
Oui.
Allez-y. Oui, j'ai connu quand même une belle carrière, comme si je suis une femme comblée et très reconnaissante envers son milieu.
Oui.
La politique, pour moi, ça a toujours été un véhicule pour changer les choses, améliorer les choses. On peut y aller, bien sûr, à fond de train ou encore se traîner les pieds.
Oui.
Personnellement, j'ai choisi de m'y investir à 150%. Et vous comprendrez que même dans le comté, c'est très important. Nous sommes élus par la population. En premier, nous sommes un député avant d'être ministre. Alors, il faut s'occuper de son comté, il faut s'occuper de la région, puisque j'étais aussi ministre qui représentait la région de Sherbrooke et Saint-François.
De l'Estrie, oui.
Alors donc, à l'époque, la région avait quand même beaucoup, énormément de besoins. C'était dans les années 85 où l'économie était vraiment au plus bas, surtout en région de Sherbrooke. Mmh. On fermait les usines de textiles. Et alors donc, il fallait redynamiser cette économie et retravailler pour essayer d'aller chercher le maximum. Il faut dire aussi que dans mon comté, j'avais le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, l'Hôtel Dieu. Alors, nous avions des hôpitaux. Il fallait aussi s'assurer d'avoir les fonds nécessaires. Nous avions également une école de médecine qu'il fallait conserver. Alors donc, avec tous les efforts, j'y investis beaucoup pour non seulement les différents ministères que j'ai occupés, mais également pour la région.
Oui. Comment vos parents ont réagi en 1981, comme vous l'avez précisé? C'est là que vous avez... c'était votre point de... Comment les parents ont réagi en 81 quand vous vous êtes...
Bien, voyez-vous, mon père... Malheureusement, mon père était décédé à l'époque. Mon père a toujours été un organisateur libéral.
Oui.
Alors, bien sûr qu'il aurait été très, très fier de sa fille, de sa fille qui était maintenant avec le Parti libéral du Québec. Quant à ma mère, elle était également très fière.
Oui.
Elle a eu connaissance, bien sûr, d'une bonne partie de ma carrière politique. Elle a assisté à mes 15 ans de vie politique. Donc, c'est la famille et aussi mon père et ma mère, bien sûr que c'était une fierté pour eux. Bon, personnellement, pour moi, c'est ce qui était important, c'était d'avoir du succès dans ce que j'entreprenais, parce que j'ai commencé avec le ministère de l'immigration, c'est-à-dire les conditions féminines et avec les services de garde, ça n'a pas été de tout repos. Par la suite, le premier ministre Bourassa m'a confié le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Alors, comme je provenais d'une région ne connaissant pas trop l'immigration et les communautés culturelles,
oui,
j'ai dû apprivoiser ce ministère, transformer ce ministère, mais j'ai beaucoup apprécié travailler avec les communautés et je pense que j'ai aidé aussi à améliorer. J'ai écrit une politique de l'immigration qui serait encore d'actualité avec comme principe que pour moi ce n'était pas le multiculturalisme qui est important au Québec, mais c'était l'interculturalisme,
c'est deux thèmes complètement différents. Oui,
avec un contrat moral pour bien informer les gens qui provenaient de l'extérieur que premièrement on devait laisser nos guerres à la porte du Canada. Et puis que pour venir au Québec, il fallait accepter certaines conditions, c'est-à-dire nos lois. Par exemple, l'excision pour les filles, c'était un crime. La bigamie, c'était un crime.
Oui.
Alors, il s'agissait de les informer que s'ils désiraient venir au Québec, il fallait qu'ils acceptent ces objectifs, parce que sinon, ils devaient rester dans leur pays, parce que pour moi, l'immigration, ce n'est pas un droit. Pour moi, c'est un privilège. Alors, une fois que j'ai terminé, j'ai fait cette politique, j'ai écrit aussi, c'est-à-dire j'ai signé une entente historique avec Barbara McDougall,
oui,
avec le gouvernement fédéral, pour que le Québec obtienne plus de pouvoir en immigration. Encore aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais cette entente, il faut la connaître. Elle est déjà très importante pour le Québec. Elle accorde des pouvoirs supplémentaires, elle accorde un budget de fonctionnement pour la francisation et puis l'intégration des immigrants. Donc, ce ministère a été pour moi une bonne formation.
Vous parlez très bien de ça d'ailleurs au chapitre 4, un double gage de confiance. Six mois avant les élections de 89, le premier ministre Bourassa m'a convoqué dans son bureau. J'ai dû retarder une entrevue prévue avec Denise Bombardier qui devait avoir lieu à mon cabinet de la condition féminine à Québec.
Oui.
J'ai failli tomber en bas de ma chaise quand il m'a dit vouloir ajouter à mes responsabilités en me confiant le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles.
Effectivement.
Décrivez-nous un peu la scène. Oui, vous le décrivez bien au chapitre 4, mais pour ceux, vous, jeune femme à l'époque.
Oui, vous savez, pour une fille qui arrive d'une région, le ministère avait toujours été occupé,
oui,
avait toujours été occupé par des ministres provenant de la région de Montréal.
De Montréal, voilà.
Oui, alors pour quelqu'un qui provenait d'une région, c'était très différent et bien sûr qu'on se questionnait sur mes compétences. Et,
oui.
Mais par contre, je pense qu'ils ont vite compris que je pouvais faire une différence et Ils ont accepté ma façon de faire et j'ai développé quand même beaucoup de relations avec certaines régions du Québec, entre autres la région de Sherbrooke où on a accueilli plusieurs immigrants et on continue encore à en accueillir.
Oui.
Alors c'était pour moi une belle expérience.
Wow. J'ai été assermenté le 3 mars 1989 et une fois en pause, j'ai réalisé que le ministère était mal administré et qu'un coup de barre devait être donné. J'ai cumulé ces nouvelles fonctions avec celle de la condition féminine pour un certain temps. Ça, c'est le double gage de confiance. Le ministère de l'Immigration était situé au 360 oui. rue McGill à Montréal. Mais j'avais aussi un bureau à Québec dans l'édifice Marie-Guyard. Wow. Si une jeune fille nous écoute actuellement, qui dit « je vais aller en politique », quel est le conseil que vous avez à lui donner?
Bien, aujourd'hui, vous savez, la politique n'est plus la même.
Hein. Voilà, c'est complètement différent.
Personnellement, à l'heure où au moment où on se parle, oui. je ne ferai plus de politique.
Oui.
C'est très difficile avec les médias sociaux.
Oui.
Très difficile. Mm. Et je vois beaucoup en somme, c'est que toutes les personnes qui sont en politique actuellement, je lève mon chapeau parce que personnellement, il aurait été impensable de faire de la politique à ce moment-ci.
Mmh.
Alors donc, ça prend beaucoup de courage, il faut aimer ce qu'on fait, il
oui.
faut aussi, mmh. Il faut le faire pour la population et non pas pour soi.
C'est ça.
Il faut travailler également avec les différents ministères, avec la fonction publique,
mmh.
parce que la fonction publique, elle, demeure une fois que vous quittez le ministère
oui.
ou que vous quittez le gouvernement. Mais par contre, elle continue, vous quittez, mais le ministère continue
l'administration,
à gérer.
L'administration doit continuer, ouais. oui. C'est comme un chef d'État, ouais. s'il n'est plus là, mais le pays doit fonctionner. Il y a un autre...
C'est ça,
en gros.
C'est ouais.
ça. Alors, comment c'est fait? Comment est-ce que, quand vous avez présenté votre livre ou votre manuscrit à Jean Charest, comment il a accepté de préfacer votre livre?
Oui, Jean Charest a accepté de préfacer mon livre et lors du lancement de mon autobiographie à Sherbrooke,
oui.
c'était quand même une petite réunion assez intime avec environ 150 personnes.
Oh, quand même, 150 personnes qui sont déplacées pour vous.
Oui, je ne pouvais pas inviter, bien sûr, tous ceux et celles que j'aurais aimé inviter, mais
oui.
je vais me reprendre. Et Jean Charest était là, Daniel Johnson était là aussi.
Oui.
Et j'ai eu la grande surprise de retrouver certains sous-ministres, entre autres à l'immigration et au Trésor. Et j'ai été quand même très heureuse de revoir tout le monde.
Vous le méritez,
alors,
vous le méritez.
Par contre, oui. c'est que pour les gens de Québec, je serai au Salon du Livre au mois d'avril prochain.
Oui.
Et puis, pour bien sûr, la signature de mon autobiographie. Et en même temps aussi, je profiterai de cette occasion pour organiser avec mes collègues, avec les collègues députés et aussi avec tous mes amis de la région de Québec, une petite rencontre.
Vous ne serez pas à Montréal, là, en fin de semaine prochaine, là, pour le Salon du Livre de Montréal?
Non, malheureusement, je ne serai pas à Montréal. J'ai fait Sherbrooke, c'est-à-dire j'ai fait des signatures dans les librairies,
mm-hmm.
mais malheureusement, je ne serai pas à Montréal. Je ne pouvais pas me rendre à Montréal pour ce Salon du Livre.
OK. On va parler un peu de votre passage au chapitre 5, là, de votre réalisation et turbulence à la tête du ministère des Finances. Première ouais. femme de l'histoire du Québec à être ministre des Finances. Bravo!
Oui, mais... c'est ça. J'ai été également la première au Conseil du Trésor. Et j'ai été d'ailleurs deux fois au Conseil du Trésor. Mais j'ai été la première femme également au Conseil du Trésor. C'est Daniel Johnson qui m'avait nommée à l'époque.
Oui. Wow.
Ouais.
Vous avez pris tout de même position publiquement sur plusieurs enjeux de l'heure. Assisté à la conférence fédérale provinciale des ministres des Finances à Halifax au début de décembre 1993, présidée par le nouveau ministre des Finances du Canada, Paul Martin.
Ben, oui, quand, c'est quand, ça. Quand, alors, ce sont toutes des expériences. Et bien sûr que le ministère des Relations internationales m'a beaucoup apporté également. J'ai eu la possibilité de voyager partout dans le monde, de faire des rencontres exceptionnelles, de mieux faire connaître le Québec aussi. Je pense que avec la doctrine Gérard Lajoie.
Oui.
Alors, donc, j'ai, des sommets de la francophonie. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir au ministère des Relations internationales. C'était très enrichissant. J'ai également fait une politique au niveau des relations internationales.
Oui.
Alors, donc, je pense que c'est un... En somme, c'est une carrière, comment pourrais-je dire, donc, qui m'a beaucoup apporté.
Oui.
Et aujourd'hui, ben, je laisse à la jeunesse et à la classe politique là, le soin de définir l'avenir. Moi, je fais partie du passé. Ma contribution, je l'ai faite. Comme je le mentionnais...
Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Vous ne faites pas partie du passé. Et surtout qu'avec ce livre que vous venez de sortir, non, vous restez vivante, même si demain vous n'êtes plus là. Et c'est des traces que vous laissez comme ça à nous autres. Hein.
Oui, bien c'est ça. Il s'agit de parcourir cette autobiographie. Et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses.
Magnifique. Oui, oui. Au chapitre 6, l'apprentissage de l'opposition, comment est-ce que ça signifiait pour vous de vous retrouver dans l'opposition?
L'opposition, je dirais que les premières années, ça a été bien dans le sens que je me suis reposée.
Oui.
Je me suis rendu compte qu'après, de 85 à 94, j'avais beaucoup travaillé.
Oui.
Surtout au ministère des Migrations, je faisais la navette entre Sherbrooke, Québec, Montréal. C'était
oui.
quand même très exigeant, avec beaucoup de fins de semaine pour les activités des communautés culturelles à Montréal.
Oui.
Alors, je ressentais quand même une grande fatigue et ça m'a permis vraiment de me reposer et ça a permis également de travailler davantage dans mon comté. Sauf qu'après quelques années, là, je commençais à m'ennuyer.
Ah bon?
Je m'ennuyais de ne pas travailler avec les ministères. Et j'ai tout fait, bien sûr, pour conserver la confiance de la population
oui.
et me représenter. Et là, à ce moment-là, en 2003, lorsque nous sommes revenus au pouvoir, là, j'étais très heureuse. Mais entre-temps, étant donné que Jean Charest n'avait pas été élu la première fois,
oui.
j'ai été chef de l'opposition officielle et ça a été quand même aussi une belle expérience. C'était quand même une première également.
Quand je vois toutes ces belles photos.
Oui. Oui.
Toutes ces belles photos dans le livre. Vous avez côtoyé presque toutes. Oui, il y a de très belles photos. Vous avez côtoyé beaucoup de personnalités, de grandes personnalités du monde entier.
Ah oui, tout à fait. Écoutez, j'ai rencontré Nelson Mandela, j'ai rencontré Aristide à l'époque, j'ai rencontré le pape, j'ai rencontré même les deux derniers papes. J'ai rencontré effectivement des premiers ministres, des chefs d'État. J'étais très, très choyée. Je dois vous dire que j'ai eu une carrière politique, mais ça a été pour moi là, vraiment... C'était une belle époque. Aujourd'hui, je vis de mes souvenirs et personnellement, je relis encore mon livre et puis je me rends compte je ne peux m'imaginer, par contre, tout ce que j'ai pu faire.
Oui. Quel a été... Je vais mettre deux questions en même temps ensemble pour vous libérer. Parce que ceux qui veulent tout savoir, là, ils n'ont qu'à aller à la librairie acheter le livre de... Une fosse tranquille, mémoire politique. Quelle a été votre plus belle expérience politique, ce qui vous a marqué le plus, cette chose que vous ne pouvez jamais oublier, et puis votre grande déception? C'est une question en deux.
Bien, c'est un tout, finalement. C'est un tout parce que je me suis amusée, à vrai dire, puis c'est toutes les réalisations.
Oui.
Je pense que toutes les réalisations, les ententes exclusives, les ententes exceptionnelles que j'ai signées. Alors ça c'est vraiment là, c'est vraiment ce qui est le plus important.
Oui.
C'est un tout, hein, c'est un tout. C'est la carrière, les gens du comté qui m'ont toujours soutenue, m'ont toujours réélu et après élection après élection.
Oui.
Alors ça, c'est ça que finalement qui a été pour moi qui m'a toujours donné la flamme.
Wow, c'est tellement bien dit. Oui. Je dis ceux qui n'ont pas encore ce livre libéré depuis le 7 septembre. Merci beaucoup Monique Gagnon Tremblay. Une force tranquille mémoire politique préfacée par Jean Charest. Très belle photo. Qui vous a fait cette photo là?
C'est un photographe de Lennoxville.
Oui.
Qui est vraiment un spécialiste, effectivement. C'est une photo qui est très bien réussie.
Oui, très, 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 très bien.
Parce qu'il fallait pas que mon âge soit trop apparent.
Ouais. Merci beaucoup à vous, Monique Gagnon-Tremblay. Une force tranquille, mémoire politique, préfacée par Jean-Charles aux éditions Septentrion. Et la collaboration, vous l'avez appréciée avec la maison d'édition
Septentrion.
Septentrion, oh, ouais. Vous l'avez,
ouais,
vous l'avez...
Alors,
oui.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, vous avez entendu la voix de Monique Gagnon-Tremblay de son, pour son roman. Oui, sa autobiographie, c'est pas un roman, attention là. Une fosse tranquille, la mémoire politique, préface de Jean Charest. Alors, une très belle photo là-dedans et tout ce qu'elle a fait durant son parcours politique. 27 ans de carrière politique. Allez-y comprendre quelque chose. Il y a des gens qui font même pas un mandat, ils s'en vont. Elle a fait 27 ans. Et puis à l'époque, hein, 81, 85, tout ça... Elle a occupé le poste de ministre de Premier ministère, tout ça, c'est bien écrit. Très belle photo. Au domaine, j'ai retrouvé la tranquillité, mes fidèles compagnons Vicky et Coco, à son domaine, bien sûr. Des chevaux. Hein, photo avec l'ancien président, l'ex-président haïtien Aristide, des photos un peu partout des chefs d'État. Toujours une excellente relation avec Louise Harel. Je pourrais lui demander une prochaine fois. Voilà. Merci à vous, à Monique Gagnon-Tremblay. Pour ce beau livre qui nous a permis, qui permet aux auditeurs, ceux qui aiment lire, bon, ceux qui n'aiment pas lire, qui veulent la découvrir, allez-y. C'est pas une brique, hein, attention. C'est juste... c'est combien de pages, là? Attendez, 257. Voilà, c'est pas une brique. On parle de briques, on arrive dans les 700, 800, les 1000 pages, là-bas. Là. Bon, ça se lit facilement. Très beau livre, très beau, elle a touché à tous les sujets sur son passage, sa carrière politique. Alors, je reviens à la Coupe du Monde de Qatar. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, comme je disais avant la petite pause, avant de recevoir mon invité, demain, mercredi, c'est férié en Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a battu. Mathieu, non, tu vis pas là-bas, tu vis au Québec, demain, ça travaille. Alors, le roi d'Arabie Saoudite va décréter, il a décrété déjà le jour férié pour célébrer l'exploit face à l'Argentine. La première sensation... Voilà, de ce mondial, c'est ça. C'est venu du match Argentine-Arabie. 2-1, l'Arabie Saoudite qui fait chuter l'Argentine de Messi. Voilà, c'est inattendu. C'est Saoudien contre l'Albi Céleste de Lionel Messi. 2-1. Voilà, quand j'ai vu la tête de Messi après le match, je me suis dit, ouh, rien ne va plus. Ça, il faut le dire. Hein. Rien ne va plus. Alors, le roi Salman a décrété la journée de mercredi comme férié. Le pays entier célébrant l'exploit des Faucons Verts. C'est comme ça que s'appelle leur équipe. National, en Coupe du Monde, selon l'ASP d'ailleurs, ou bien l'agence de presse saoudienne, SPA, ce congé s'applique aussi aux étudiants, aux écoliers, ainsi qu'aux employés des secteurs publics et privés. Tout le
et
monde.
Metteurs en ondes.
Mathieu, tu ne vis pas là-bas, hein, tu vis ici. Tu vas... Voilà, à mon accueil, hein, oui. Non, les radios doivent fonctionner. Zut. La Turquie, le Tchèque, le conseiller à la cour royale et président de l'autorité de divertissement a aussi annoncé du Twitter que l'entrée aux principaux parcs d'attractions et lieux de divertissement de la capitale sera gratuite. Ouais, alors là, bon, il n'en croit pas, leurs yeux. Voilà, ils dansent de joie, il fallait pas voir les vidéos, là, machin, là, tandis que les automobilistes agitaient le drapeau national par les fenêtres dans les rues du Riyad, l'improbable victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, 2-1. Non, c'est même dans mes rêves de plus fou, j'ai jamais pensé que l'Arabie Saoudite pouvait battre l'équipe A d'Argentine avec le roi Lionel Messi. C'est pas le roi Lion, c'est Lionel Messi. Voilà, non, dommage. Rien n'est impossible pour l'Arabie Saoudite, l'avenir est là. Attention. Mais l'entraîneur, qui est un Français, l'a dit, attention, ils ne sont pas devenus la meilleure équipe du monde parce qu'on a battu l'Argentine. Le tournoi continue, c'est vrai. Je pense bien qu'ils vont être en mesure de... Voilà, je te dis merci, Mathieu. On se retrouve demain.
Oui, comme j'ai pas congé.
Oui, on n'est pas en Arabie Saoudite, on est au Québec. Je dis merci à Myriam Larache et à notre invitée Monique Gagnon-Tremblay, une femme forte, tranquille, mémoire politique aux éditions Septentrion. Préface de Jean Charest, c'est un librairie depuis le 7 septembre. Et merci à vous, chers fidèles auditeurs, de votre fidélité. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et on termine en beauté. Je dis merci à la recherche de l'émission Catherine Bourderon. On termine en beauté avec qui? Sifo Gombele, Alone in a Strange.
On pourrait la mettre demain, en fait, parce qu'il reste 15 secondes.
OK, d'accord. Ouais, on la met demain.
Surprise demain.
Oh, hein, surprise demain, c'est mieux comme ça, non? Voilà. Allez, merci à toi, Mathieu. Prenez soin de vos minutes et je vous dis ciao.